Radio 01.
Point net présente.
Inférieur à 3.
Avec
Fibre Tigre
et Michel Pimpon.
Salut à tous, je suis Alvin et vous écoutez la dernière d'Inférieur à 3, déjà votre talk show à propos du jeu vidéo et beaucoup d'espièglerie et beaucoup de débats s'achève ce soir avec un dernier numéro. Et pour ce dernier numéro, je suis comme toujours entouré par Fibre Tigre et Michel Pimpon. Bonsoir messieurs.
Bonsoir, c'est Fibre Tigre.
Non, bonjour, c'est Fibre Tigre, c'est moi Fibre Tigre.
C'est toi Fibre Tigre, oui, est-ce que vous êtes sûr?
Prouvez-le.
Usurpateur.
Quelle est votre chronique Fibre Tigre alors?
Ma chronique portera sur... non, je vais pas lui faire ça, c'est
dégueulasse. C'est dégueulasse. Au programme ce soir, des VHS avec des anciens jeux, des chroniques superbes, vous allez les entendre, un Final Lap, des courriers d'haters, un numéro tout à fait classique pour finir la saison, et on va commencer justement avec les jeux oubliés des VHS.
La VHS.
On commence donc avec les VHS, comme à chaque fois, et cette fois-ci, c'est Fibre Tigre qui va commencer avec The Indestructibles de Bullfrog.
Oui. Molineux, on a pas arrêté de parler de Molineux avant le début de l'émission.
C'est vrai qu'on est très 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 Molineux aujourd'hui, on a beaucoup de choses à dire sur lui.
Là, alors, il faut pas brancher Michel sur Molineux, parce que là, il pense à des choses.
On a beaucoup d'idées.
Alors, Molineux, Bullfrog, Lyonnais, on les connaît pour leur
Magic Carpet.
On connaît aussi pour les jeux qu'ils n'ont jamais fait.
C'est vrai.
Voilà. Hein.
Project Lego, toujours dans nos cœurs.
Et notamment, il y a un jeu, peut-être Michel en parlera, c'est BC. Michel est amoureux de ce jeu et il adore ce jeu, mais bon.
Moi, j'étais amoureux de Milo, mais c'est vraiment contre nature.
Oui, voilà, Milo aussi, qui a disparu. Bon. Et je vais vous parler, parmi tous ces jeux qui ont disparu, un autre projet, mais dont on peut trouver des images, dont je vous invite à les trouver, complètement prometteur. On est en 96. Ça s'appelle The Indestructible. Mm-hmm. Et parmi les projets complètement fous, donc là, tout simplement, 96, Molineux rêve d'une ville comme dans Crackdown, donc en polygone vectoriel, et dedans des super-héros en ellipse comme dans Extatica.
Ouais.
Et donc avec votre super-héros, vous pouviez renverser des voitures, voler, combattre d'autres super-héros, lancer des boules d'énergie. Bon, voilà. Et le jeu est dans l'univers de Watchmen en plus.
Donc, il avait la licence
Watchmen, et les mecs de Watchmen étaient sous le charme du Molineux qu'on connaît bien, donc ils ont bossé dessus, ils y croyaient. Et bon, il y a eu quand même eu des... Mais bon, la puissance technique de l'époque n'a pas pu suivre les ambitions de Peter Molineux, donc ça ne s'est pas fait. Et il y a une question métaphysique que je me pose suite à ça, c'est que Molineux aujourd'hui, il va sortir Godus.
Oui.
Et 20 ans après son premier jeu, quasi, enfin le premier était anecdotique, mais on va dire son grand premier jeu, qui s'appelle Populus.
Tout à fait.
Et donc en fait, on est passé de Populus le peuple à Godus le dieu. Mmh. Et moi, psychanalytiquement, le mec, il tourne en rond, à part qu'il s'est transformé en dieu entre-temps.
Il a pris un level en 20 ans, c'est pas
voilà,
mal.
Voilà, c'est ça. Et je me suis dit que finalement, si The Indestructible, ça avait marché, et vu qu'en plus l'open world a marché ensuite, peut-être on serait dans une autre configuration. C'est-à-dire, il serait en ce moment en train de faire des jeux de super-héros, il serait avec Marvel, et il se passerait des choses complètement dingues.
Est-ce qu'il n'avait pas fait déjà un petit peu ce jeu-là dans l'espèce de trip cybernétique où on était dans une ville avec des gens qui avaient des puces et des implants, le truc en isométrique?
Enter the Matrix.
Ça ne me dit rien.
En tout cas, c'est pas fable. Voilà.
Non, ce n'est pas fable, c'est clairement.
Voilà.
Juste un petit détail quand même concernant Peter Molineux et surtout Godus. Voilà, je pense qu'il y a de nombreux latinistes qui nous écoutent, et ils ont raison, parce que c'est la voix de la raison que d'écouter Inférieur à 3. Mais Dieu ne se dit pas Godus, voilà. C'est Deus, voilà, hein, c'est tout bête. Mais Godus, ça fait Bigus Dicus, quoi, c'est vraiment c'est la vie de Brian, quoi.
Légèrement, ça fait, mais c'est peut-être mieux pour le référencement aussi, parce que Deus, on en a déjà un, Deus Ex. Qu'on tape toujours deux ex en plus sur Google, je sais pas.
Je pense que le concept c'est God Us en fait.
Ah,
parce que c'est un Populus connecté, mais bon.
Tu t'as pu y jouer, je crois.
Je l'ai vu de près, Molineux et le jeu. Et bon, bah.
Et t'as vu juste
qui était plus impressionnant.
Sauf grosse surprise, c'est pas l'éclate quoi.
L'engouement n'est pas là. Est-ce que The Indestructibles, tu aurais kiffé ta race?
Je suis pas certain, c'est pas vraiment ma cam.
T'as aimé Crackdown ou pas?
Je l'ai pris après tout le monde en fait. Ah, okay. Donc j'ai vu que tout le monde trouvait ça foufou dingo. Et quand je me suis lancé en me disant voyons un peu ce jeu foufou dingo, je me suis dit non, voilà. Mais c'est pas grave, hein.
très bien. On va passer à une autre VHS parce qu'on va partir surtout sur une ambiance festive. Dernière oblige. Oui. Nous allons parler de Dance Central The Musical Edition.
Oui, prévu.
Qu'est-ce que?
Alors voilà, très bien. Vous savez peut-être, chers amis auditeurs, chers amis autour de la table, chers amis dans la rue, que j'aime beaucoup chanter. J'ai chanté dès que je pouvais dans cette émission.
Pour notre plus grand plaisir et celui de nos auditeurs.
Oui, voilà. C'est-à-dire que bon, il faut savoir un peu allier le plaisir comme ça et la connaissance, instruire et plaire. C'est aussi ça que j'aime.
Honnêtement, j'aurais retourné mon siège et je t'aurais mis 4 bleus, hein, vraiment. Donc.
Bon, alors, ne me mets pas 4 bleus, s'il te plaît. Pas, de, ah, pas à 7 heures de grand. Pas une heure de grande écoute, on ne me met pas de 4 bleus comme ça. Mais voilà, sur Dance Central, The Musical Edition, si effectivement tout le monde connaît Dance Central ou même Just Dance, c'est le principe, ça reste jamais que danser devant sa télé avec des chorégraphies plus ou moins pertinentes.
Oui.
On va pas se mentir. Et donc plus ou moins embarrassante. Oui, voilà. Mais sachez donc, chers amis, qu'une version très particulière de Dance Central a failli voir le jour au moment de la sortie de la Xbox One, qui est quand même une sortie assez récente. Il s'agissait donc de Dance Central The Musical Edition. Le concept est tout simple. Reprendre le cœur du gameplay de Dance Central, donc voilà,
la gesticulation.
Oui, voilà, faire une chorégraphie, blablabla, devant son écran, en essayant d'être le plus synchro possible, en y adjoignant. Le verbe adjoindre est merveilleux, en y adjoignant la composante karaoké. C'est-à-dire que le chant était contrôlé via les micros de Kinect.
Oui.
Le nouveau Kinect magique, là, 2.0, qui fait papa-maman. Et parce que c'est bien beau, enfin, ce qu'on se dit, c'est que le concept est génial, mais voilà, c'est bien beau de chanter et danser comme une vulgaire Laurie de jouer en Josas, mais il faut avoir une tracklist en béton pour pouvoir sublimer, puisque le terme est à la mode, un concept aussi casse-gueule que danser et chanter.
Parce que qui a déjà joué à Dance Central sait déjà que tenir 3 chansons en dansant seulement, c'est déjà
chaud patate.
Et que c'est là qu'on se rend compte que le simulateur de Damien Sargue, bah, c'est quand même pas évident de réussir à se la jouer quasimodo au milieu de Notre-Dame de Paris et de chanter en même temps. C'est pas évident.
Voilà, effectivement, il faut s'interroger sur la pertinence de la tracklist, mais là, justement, have no fear. Voilà, je peux vous dévoiler en avant-première ce que devait être Dance Central The Musical Edition. Voici la tracklist. Jesus Christ Superstar.
D'accord.
Grosse comédie musicale. Grise, donc les chansons de Grise, quand même. Starmania, évidemment, pour la version française.
Le public francophone.
West Side Story, quand même. Pas dégueulasse.
Je rêve.
My Fair Lady. Les Demoiselles de Rochefort.
Ça c'est osé, j'ai envie de te dire.
My Fair Lady et Les Demoiselles de Rochefort, ça se tente totalement.
Elles étaient à deux devant le Kinect dans...
T'avais la possibilité, puisque le capteur te permet de faire de jouer en même temps. Et évidemment, Chantons sous la pluie à tout seigneur, tout honneur. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y avait des unlockables. Si vous arriviez à tout défoncer et faire toutes les chorégraphies en A++ extra, on pouvait débloquer Dirty Dancing. Et là, j'ai votre attention. Ladies, j'ai votre attention. Voilà, Dirty Dancing, qui n'est pas une comédie musicale, certes, mais bon.
Mais il était porté, quand même.
Et toujours l'unlockable, alors là, l'unlockable ultime, la Boom.
Ah ah !
Qui n'est pas une comédie musicale, mais...
Qui est quand même super facile à danser et super facile à chanter. Et ça...
Alors, eh ben, écoute, j'ai envie de dire démonstration. Voilà, bon, alors, effectivement, la mauvaise nouvelle, c'est que le projet a pris l'eau. Oh. Pour des raisons de coût, parce que les droits cumulés de toutes ces comédies musicales étaient effectivement faramineux.
Logique.
Mais aussi pour des raisons techniques, parce que la machine avait du mal à distinguer le chant et la voix de chaque joueur, parce que c'est quand même pensé pour être un truc plusieurs...
Du scoring quand même, il faut quand même un petit peu se comparer quoi.
Oui, voilà, mais sur le principe il y avait une saine émulation quand même d'un joueur à l'autre, et puis un petit message d'espoir quand même, espérons que l'avenir nous permettra de voir sur un autre support peut-être ce simulateur de honte en société. Parce que Embarrassment Simulator 2000.
Alors sur Dance Central, quelle chanson as-tu choisi? Est-ce que tu peux nous faire une petite démo?
Alors je ne vais pas faire de démo, par contre je vais me permettre de parler d'un projet qui n'est pas à moi, et je n'ai pas de participation dans ce projet, mais pour moi c'est le seul jeu qui m'excite un peu.
Oh.
Alors c'est la société s'appelle Flying Hawk Studio, c'est des Français, et ils ont fait un simulateur de danse entre guillemets dans une dictature fasciste.
Ah.
Donc en fait vous êtes sous les mitraillettes, il y a des marches militaires et vous faites des positions hyper bizarres à l'écran, et à chaque fois vous faites oi 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 comme ça,
et on évite les balles.
Et non, si vous vous trompez on vous fusille.
Alors la question,
c'est absolument extraordinaire. Et
ça,
pourquoi le jeu n'est pas sorti?
Alors ça sort,
j'en peux plus, je veux le savoir. Et pourquoi il ne sort pas? Parce qu'on ne peut pas sortir de jeu indépendant sur Kinect.
Ah.
Voilà. Mais le jeu il est là, il marche.
Alors,
il est fabuleux.
C'est le moment de, peut-être comme celle de la dernière, de faire un appel à nos amis.
Voilà, Flying Hawk, et c'est un projet mais de malade. Et quand il me l'a pitché, J'ai dit, mais je veux jouer à ce jeu.
Ce jeu est tellement nécessaire, ce jeu va vendre Xbox One.
Je veux faire toutes les dictatures fascistes de l'histoire et je veux faire toutes.
T'imagines tout, un petit pas de tango avec Eva Perón.
Ah non, mais c'est même pas ça. C'est genre, il faut faire le poirier, tu vois, il faut faire des positions bon, complètement ça. Bizarres, sinon on te fusille, tu vois.
Et puis, il faut pas non plus cracher dans la soupe, hein, parce qu'entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, le Sud nous offre le Gangnam Style et la Corée du Nord nous offre Kim Jong-un.
Il y a quand même moyen. J'allais dire, je pense, vu qu'on avait pas prévu de parler d'Ubisoft, il faut quand même parler d'Ubisoft dans Inferior 3.
Ubisoft,
tu nous entends,
Ubisoft, voilà. Tu nous entends,
le point Ubisoft.
Tu nous entends,
rends-toi utile Ubisoft. En plus tu peux faire une version kids où on t'envoie des œufs pourris parce que c'est plus pipou, tu vois. Il y a moyen de faire, il y a un super concept, non,
le concept est top, c'est un détournement et là il va se vendre, mais tout le monde l'achète, quoi. Voilà,
moi j'achète une version collector avec un petit uniforme.
Espérons que cet appel sera entendu.
Parce que la Japan Expo, les mecs.
Ça, mais moi je l'achète.
Nous avons trouvé le jeu de l'année dans cette émission. Moi, vous en aurez entendu en parler pour la première fois dans Inferior à 3.
Tu nous entends, Ubisoft ?
Tu nous entends, tu nous entends. Est-ce que tu entends le Game Shark, Ubisoft ? Le Game Shark, tout de suite.
Game Shark.
Le Game Shark, c'est la dernière chronique de Fibre Tigre à propos du jeu vidéo. Et cette fois-ci, ça va être encore un élément un peu controversé. Ça va être la sauvegarde.
Oui, c'est pas très controversé, mais c'est quelque chose de très important dans le jeu vidéo.
Qui a eu beaucoup plus de changements qu'on pourrait le penser.
Voilà. Alors la sauvegarde, c'est quoi ? C'est tout simplement dans un jeu vidéo, à un moment, le logiciel vous permet d'enregistrer la progression du joueur de façon à ce qu'il la reprenne plus tard. Donc c'est pas quelque chose qui est arrivé immédiatement. C'est-à-dire qu'au début, il n'y avait pas de sauvegarde puisqu'on payait dans la borne d'arcade le jeu. Donc, c'était intéressant de ne pas avoir de sauvegarde pour pouvoir recommencer le jeu à zéro.
Il n'y avait pas forcément quelque chose à sauvegarder non plus. Sur Pong, c'est difficile.
Voilà, c'est ça. Et il y a également aussi... Après, dans les premiers jeux, c'était des petits jeux. La sauvegarde ne s'imposait pas. Et il n'y avait pas aussi de système hardware qui permettait l'enregistrement d'une partie. Mais en plus, c'est beaucoup de ressources. Bon, c'est pas évident en termes de logiciel à la mettre en place. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez des jeux NES dans lequel il fallait noter des codes. Voilà. Donc, c'est des bouts de papier avec des codes, parfois 16 chiffres, parfois 32 chiffres.
Les premières sauvegardes de Zelda qui étaient en 30 caractères à noter.
Voilà, c'est ça. Moi, je me souviens surtout de Battle of Olympus, qui est un jeu qui j'ai trouvé très dur et qu'il fallait noter plein de codes. Et voilà.
Flashback fonctionnait avec Flashback, Mega Drive, c'était juste un code, mot de passe.
Et parfois, on pouvait tricher, changer un petit peu le code pour voir si ça donnait une sauvegarde avec plus de vie. Bon, voilà. Et après, on a eu les vraies sauvegardes. Moi, je les ai vécues au temps des LucasArts. Et quand j'ai vu ma première sauvegarde sur Zack McCracken, le système de sauvegarde, c'est-à-dire on sauvegarde l'état du jeu, j'ai pas compris ce que c'était. C'est-à-dire, je ne savais pas à quoi ça servait. J'ai trouvé ça même un peu intrusif, quoi.
C'était en option. C'est-à-dire, t'es tombé sur l'option par hasard ou
Ouais, on appuyait sur F5 dans les LucasArts et on sauvegardait. Et moi, je trouvais ça normal parce que j'avais été biberonné au jeu d'avant. De refaire le jeu depuis le début quand je voulais aller plus loin, voilà. Ce qui fait que je connais bien les jeux, je connais bien par cœur, j'ai bien fini plein de fois. Donc c'était ça. Donc moi, il faut voir que la sauvegarde, elle change le jeu. C'est-à-dire qu'elle vous fait basculer dans un méta-jeu. Quand vous avez un jeu qui vous demande d'aller chercher une carte secrète pour traverser un champ de mine, vous pouvez aussi mourir dans le champ de mine, charger une sauvegarde, mourir un peu plus loin, et en fait vous vous faites votre propre carte.
C'est un moyen de brute forcer le jeu un petit peu, mais ouais, ça voilà. Marche
mais
aussi.
Aujourd'hui, des tas de gens font ça, c'est un système classique, mais on n'est pas dans la véritable histoire, enfin, telle que l'a pensé le concepteur de jeu. Donc la sauvegarde, c'est un élément de gameplay qui vient perturber l'histoire possible. Votre héros mille fois mort, dans des mondes parallèles, traverse un champ de mine comme s'il avait préscience des emplacements dangereux. Donc, également dans le système de sauvegarde, parfois il n'y avait pas assez de slots de sauvegarde et les gens ils disent oh là là, on peut faire que 10 sauvegardes, mais
c'est déjà pas mal,
oui, quoi. Voilà, parce que les gens ont eu faim de la collection de ces emplacements où ils pouvaient avoir le choix. Dans la vie réelle, on a choisi, c'est trop tard. Là, on peut revenir au moment où on a choix. Et ce qui est intéressant dans les slots de sauvegarde, c'est que personne ne revient en arrière.
C'est par sécurité, essentiellement.
Par sécurité par rapport à des bugs. Mais
pas forcément par rapport à des bugs, par rapport à une mauvaise décision qu'on peut avoir prise, effectivement, de les fameuses sauvegardes quand on sauvegarde à un mauvais endroit.
C'est du slot shaming ce que vous faites, monsieur.
Slot shaming. Excellent. Alors, il y a aussi les resquilleurs de la sauvegarde. On hack les sauvegardes. Moi, j'ai hacké des sauvegardes de mon vieux temps, là, surtout X-Wing,
qui était
très très
dur.
Ouais, ça va. Et il y avait même parfois, simplement, le jeu, il buguait. Il n'y avait pas d'update via Internet. Moi, ma copie d'Ultima 7, elle buguait à Scarabrae. Ben, j'ai un copain qui m'a filé une sauvegarde. Alors, malheureusement, je ne terminais pas avec le même nom qu'au départ, puisque je prenais sa sauvegarde. Mais bon, en tout cas, j'ai pu voir la fin. Mais ce n'est pas quelque chose d'ultra ancien et de vieux comme moi, puisque là, dans des jeux comme Dark Souls, les gens s'échangent une fameuse sauvegarde qui s'appelle la Mega Mule, et ça permet, si tu commences le jeu avec cette sauvegarde, et en fait, t'as tout t'as tous les objets, t'as tout, t'es un personnage ultra puissant et tu peux après, enfin t'as triché quoi en gros. Mais
Tu peux battre les boss de Dark Souls sans jouer à Dark Souls finalement.
Oui, enfin voilà, ça après c'est après il y a une philosophie derrière, mais en tout cas la philosophie de la sauvegarde hackée, elle existe encore. Il y a un autre système de tricherie de sauvegarde, ça s'appelle le save scumming. C'est dans les jeux où il n'y a qu'une seule sauvegarde, comme dans NetHack par exemple, donc c'est des jeux roguelike, dans lesquels vous commencez le jeu, vous pouvez le sauvegarder si vous allez vous arrêter le jeu, mais si vous sauvegardez, le jeu s'arrête. Et si vous mourrez, la sauvegarde s'efface. Donc,
c'était vraiment des sauvegardes à usage unique.
Exactement, voilà. Et mais on peut, quand on joue à ce type de jeu, faire le save scum, c'est-à-dire, tu fais un petit contrôle C, contrôle G.
C'est vraiment dégueulasse ce numéro.
Choper le save scum avant que le save scum vous chope, c'est ça?
Voilà. Donc,
ce que tu me proposes.
En fait, les gens...
N'oubliez pas d'aller vous faire dépister. Mais
les gens sauvegardaient leur petite sauvegarde, mettaient dans un autre répertoire, ils mouraient, la sauvegarde s'effaçait, hop, ils remettaient leur sauvegarde et ils reprenaient à leur point où ils avaient sauvegardé. Mais là où, ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs les gens qui font des roguelikes en faisant du save scumming ne gagnent pas, parce qu'en fait ce qui est intéressant, c'est que quand vous commencez à prendre des mauvaises décisions, bah, les mauvaises décisions s'accumulent et vous perdez. Donc le save scumming, ça vous donne l'illusion de gagner et en fait vous ne gagnez pas. Et la sauvegarde, autre aspect de la sauvegarde, c'est un toc. Moi ça m'est arrivé de faire des parties de Deus Ex, d'être devant une porte fermée, de sauvegarder, de vérifier que j'ai bien les armes dans la main, tous les pouvoirs, et je re-sauvegarde. Et là, je revérifie et je re-sauvegarde. Et ça, comme une maladie. Quoi.
Sur à peu près tous les jeux, je me souviens quand j'étais très jeune et que je jouais à Tomb Raider, effectivement, je battais un ennemi, je sauvegardais, j'allais ouvrir une porte, je sauvegardais, j'ouvrais un levier, je sauvegardais. C'est important, c'est un toc complet, on est d'accord.
Voilà. Il y a des sauvegardes qui m'ont épaté. Comme par exemple, une sauvegarde qui m'épate, c'est les sauvegardes de LucasArts post Monkey Island 2, Monkey Island 2 compris. Quand vous faites la sauvegarde, elle vous garde à la note de musique près. C'est-à-dire vous recommencez le jeu à la seconde où vous l'aviez. Voilà. C'est un peu comme les sauvegardes des émulateurs NES.
C'est les save states.
Voilà, ouais, exactement. C'est assez impressionnant. Et d'autres aspects de la sauvegarde. Par exemple, il y a des sauvegardes cachées. On va en parler tout à l'heure. Mais dans Targan de Silmarils, il fallait s'agenouiller devant des statues cachées. Mais s'agenouiller, c'était pas genre appuyer sur A pour vous agenouiller. C'était une fonction de, enfin, genre se baisser. Vous baissez devant une statue et en fait, le dieu vous autorisait à sauvegarder. La sauvegarde peut également se transmettre de jeu en jeu, donc à la fois de façon...
Comme une MST.
Voilà, exactement. De façon flagrante, comme dans un Mass Effect, c'est-à-dire vous gardez votre commandant, je ne sais pas, à part que dans du 2 au 3, ça ne marchait pas très très bien. Et également, de façon un peu plus subtile, si vous aviez joué à ICO, et ben votre cheval dans Shadow of the Colossus, il avait une petite marque particulière sur le front.
Oh là là.
Voilà, donc ça c'était la petit Easter egg.
Clin d'œil.
Ils sont bons les Japonais pour ça. Et ce qui est intéressant, c'est que les joueurs ils n'avancent plus vers un objectif à la fin. Ils regardent plus le sommet, c'est-à-dire je vais arriver à la fin du jeu. Ils crapahutent de point de sauvegarde en point de sauvegarde dans l'espoir de dire bah voilà, encore 5 minutes de jeu et je vais pouvoir me reposer quoi, en quelque sorte. Et ce qui était intéressant, c'est qu'avant on disait maman, laisse-moi encore jouer 5 minutes, et là c'est maman, laisse-moi jouer ça encore 5 minutes parce que sinon j'ai perdu une heure de jeu là, voilà. C'est ça, donc c'est la sauvegarde, voilà. Et alors je vais dire quelque chose qui va être éminemment controversé, ça va être la fin de ma chronique. C'est que dans tout le spectre de la sauvegarde, je n'ai pas vu de jeu dont le gameplay mettrait en valeur quand même la sauvegarde. C'est-à-dire, la sauvegarde serait un élément du jeu. Je pourrais encore vous saouler sur Dark Souls, blablabla, mais j'ai pas vraiment vu des choses comme ça. Et la sauvegarde, au final, c'est une sorte de boîte de Schrödinger de nos possibilités. Les chemins différents des destinées se superposent, et c'est une tragédie, parce que nos choix n'ont plus de sens. Nos choix ne se résument tous qu'à une seule question. Est-ce que je dois sauvegarder maintenant?
Alors, Michel Barman, je crois que tu as une objection à faire à propos du gameplay
écraser,
et la
sauvegarde. Je vais écraser tout de suite cette sauvegarde, si vous me permettez. Voilà. J'écrase cette sauvegarde concernant... Le dernier point qui a été soulevé, je suis absolument pas d'accord parce qu'il y a des jeux, et je pense à mon chouchou Resident Evil 1, il y a des jeux qui jouent précisément le jeu de la sauvegarde. Ça fait beaucoup de jeux, mais soyez sympa. Resident Evil 1, c'est un survival, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de balles dans son flingue, on n'a pas beaucoup d'herbes vertes, mais il y a beaucoup de monstres. Et ça, c'est le jeu. Mais figurez-vous qu'on a aussi besoin de rubans encreurs dans, pour mettre dans des
machines à écrire
qui sont disposées dans des endroits très cons pour pouvoir sauvegarder. Et ça, c'est le deuxième aspect du survival. Et ça, c'est foufou dingo. Parce qu'effectivement, ça casse le quatrième mur dans une certaine mesure. Parce que pourquoi tu aurais besoin de rubans encreurs ? Ah mon Dieu, j'ai besoin d'un ruban pour pouvoir sauvegarder. Bon, c'est un peu con. Admettons. Et, mais les rubans sont en nombre limité. Et suivant le mode de difficulté, il y en a plus ou moins.
Oui. Et si on prend même, si on prend même le pire mode de difficulté, les coffres ne sont plus connectés entre eux, donc ouais. En plus il faut laisser un ruban à côté de chaque, chaque machine
vois, vois,
la folie quoi.
Et ça, la première fois que tu rencontres ce jeu là et que tu rencontres ce cas de figure, tu es en panique totale parce que en fait, c'est moins le zombie qui te fait flipper, même si ça, à cette époque là ça collait un peu les miquettes, c'est que tu dis putain comment je fais pour sauvegarder, j'ai dit putain je vais recharger une sauvegarde antérieure et tu te dis punaise comment je fais pour sauvegarder. L'autre truc, c'est que ce dont on a beaucoup parlé là, c'est plutôt une expérience de joueur PC, c'est-à-dire précisément F5-F6, c'est-à-dire la sauvegarde rapide, qui est effectivement, tu parlais de TOC, il y a effectivement cet aspect-là, c'est-à-dire charger, sauvegarder, avec l'espace infini d'un, ou quasiment infini d'un disque dur, puisqu'une sauvegarde, c'est que dalle. Moi, j'ai plutôt une expérience de joueur console, et effectivement, moi, une de mes consoles préférées, ça reste la première PlayStation, parce qu'elle a offert, avec cette carte mémoire, elle a offert, elle a libéré en fait le principe de la sauvegarde et je trouvais ça super intéressant et il y a une analogie que j'ai fait pendant longtemps par rapport à ce plaisir de la sauvegarde à partir de la génération PlayStation, c'est la carte mémoire, c'est un marque-page. C'est ton marque-page dans un roman, dans un livre d'aventure. Et ça, c'est vraiment super plaisant. C'est que tu te dis, waouh, c'est foufou, c'est génial, mais je vais sauvegarder maintenant parce que ma maman a fait des pâtes et je vais aller les manger. Et c'est hyper agréable parce que moi, j'ai aussi connu la période précédente et pas le jeu PC, la période 16 bits ou 8 bits, effectivement, j'ai éprouvé beaucoup de frustration parce que en sortie des jeux avec des codes ou avec des mots de passe, je parlais de Flashback sur Mega Drive parce que c'est mon jeu chouchou, ou effectivement des jeux avec des petits codes, des petits codes graphiques, mais sortie de ça, c'était que dalle, démerde-toi.
Ou alors c'était effectivement par un menu secret. Moi je pense au Sonic où effectivement où les premiers niveaux on les a tous dosés, oui. On les connaît bien par cœur. Effectivement après c'était un menu, un level select qui était plus ou moins caché, qui te permettait d'émuler la sauvegarde que tu n'avais pas finalement. Et sur la matérialisation par la carte mémoire, je pense effectivement la première fois où tu as pu emmener une sauvegarde chez un ami,
oui.
Et tu n'étais pas obligé de venir avec ta cartouche, tu venais avec ta carte mémoire et c'était super, elle était dans ta poche et c'était trop swag. Écoutez,
j'aimerais rajouter une dernière chose, c'est que la sauvegarde a quand même changé beaucoup de chose à notre appréciation du jeu, c'est que si vous devez aller à la fin d'un jeu et combattre des ennemis, normalement si vous êtes le héros, votre stress ça va être est-ce que j'arriverai à tuer tous les ennemis et à battre le boss. Si vous avez un système de sauvegarde, ça va être plutôt il faut que j'aille au point de sauvegarde, sinon le temps que j'aurais passé à tuer les ennemis, je l'aurais perdu.
Oui, absolument. Et donc, une dernière sauvegarde juste avant le boss final.
Et l'immersion, elle existe, mais elle est complètement différente. Voilà.
Ah, je suis d'accord.
Je pense que... alors après, il y a d'autres systèmes de sauvegarde. Il y a aussi des... enfin, c'est lié aussi à la mort, au fait au permadeath, tout ça. La question de la sauvegarde aujourd'hui, elle se pose pas. Il y a aujourd'hui ce qui
se
prédomine
dans
ce qui se prédomine dans la console, c'est le point de contrôle. Voilà, vous arrivez à un point de contrôle, vous avez sauvé. Mais la question ne se pose pas. Et si on pose quelque chose sur le plat, on pourra peut-être trouver des jeux qui sont hyper top.
Ouais, j'avais juste deux points rapidement à évoquer concernant la sauvegarde. D'une part, coller un petit taquet au passage à Oddworld, l'Odyssée de Abe que je suis en train de refaire actuellement, parce que c'est un des rares jeux à ma connaissance qui soit console qui propose un système de sauvegarde rapide, et parce que c'est juste des successions d'écrans, donc en fait ça ressemble à un save state,
ouais.
Mais le problème c'est que c'est complètement désynchronisé d'une vraie sauvegarde en dur, si j'ose dire, sur ta carte mémoire.
C'est-à-dire,
pour le dire plus simplement, ta sauvegarde rapide quand tu restes dans le jeu, et en revanche quand tu rage quit, parce que ça fait 12 fois que tu t'as raté,
beaucoup plus tôt avant.
Il faut surtout pas avoir oublié de sauvegarder auparavant, parce que ça n'enregistre pas.
Ou si t'as une coupure d'électricité, quoi.
Oui, ce qui est assez rare. C'est rare quand même, ça m'est jamais arrivé, perso.
Ce qui est quand même assez rare, mais c'est vrai que Fidion, je reviens à tout ça, sur le fait que la première fois je suis retombé sur un jeu qui n'avait plus de sauvegarde automatique, et effectivement j'avais oublié de sauvegarder, et ce qui fait qu'il y a une vraie génération, donc j'ai pris l'habitude de relancer un jeu, d'avoir eu une sauvegarde automatique, et puis d'avoir passé un point de contrôle à Bioshock, à Call of Duty ou des trucs
comme
ça.
C'était quoi ce jeu?
Et je n'ai aucune idée ce qu'il prouve. Je crois que ça devait être certainement sur un Dark Souls ou sur un Final Fantasy, effectivement, d'avoir oublié que mince, il faut sauvegarder toutes les 5 heures et que là tu es parti pour te retaper 5 heures ou pour ne pas finir ce jeu. On passe au courrier des haters ?
Ah bah tout à fait.
Dernier courrier des haters. Le courrier des haters. Le courrier des haters, pour la dernière fois, nous sommes allés fouiller dans les boîtes mail des plus gros rageux d'Internet, et ils sont toujours très nombreux, et on va commencer avec un premier courrier adressé à Hideo Kojima. On sent que quelqu'un a acheté Metal Gear Solid 5.
Alors voilà, un courrier anonyme, c'est pas moi, parce que j'ai...
Non.
Voilà. Et oui, je suis un hater de plus à la montagne de haine qui s'est accumulée à la sortie du dernier MGS. Et oui, on finit le jeu rapidement. Et oui, on en fait le tour rapidement. Et oui, on voulait voir plein de pays, on voulait voir plein de cutscenes. Ah non, non, ça c'est bon les cutscenes, on en a, ça y est.
Bon, c'est bon.
Bon, c'est un peu léger en contenu quand même. Hein. Beaucoup de gens ont dit, vous nous avez fait payer une démo. Mais dans les faits, c'est exactement ça, vous nous avez fait payer une démo. Dur, dur de rester fan.
Ah, il y a un fan déçu. Alors, excusez-moi, j'entends quelque chose, oui.
Démo. Bon, ça y est, ok. On l'a dit, on l'a répété. Est-ce qu'on peut passer à autre chose, s'il vous plaît? Démo.
Démo arigato.
D'accord. Démo arigato. Ok, très bon. Une démo. Ok, t'as payé une démo. Bon, et ta PS4 Day One sans jeu, c'est pas une démo à 400 boules peut-être? Hein? Bon. Tu crois quoi, anonyme derrière ton clavier? Tu crois que ça me fait plaisir, moi, d'être encore là? Hein? Tu dis quoi? Tu dis ouin ouin Metal Gear avec tes copains sur un forum de JV français dont tout le monde se fout? Et tu crois que t'es un hater de Metal Gear? Mais mec! T'as pas compris encore? C'est moi le plus gros hater de Metal Gear. Ça t'est jamais venu à l'esprit que si les scénars devenaient de plus en plus pétés, si les cutscenes étaient de plus en plus longues et foireuses, si les histoires étaient même plus cohérentes depuis 2007 à la louche, hein, c'était pour dire que j'en peux plus de ce tocard qui rampe pour infiltrer une base à la con dont tout le monde se fout? Je l'emmerde, Solid Snake, je l'emmerde. Je lui pisse dans l'œilleton à Big Boss.
Nous ne saurons pas plus, nous avons été piratés par un codec et nous en excusons, mais en tout cas, notre anonyme a eu sa petite réponse.
Snake, on a été coupé. Tu as réussi à t'échapper du complexe nucléaire? De justesse. Mais comment Liquide a-t-il pu deviner que je serais là? Eh bien, j'ai fait des recherches pendant que tu faisais des trucs, et il semblerait que Liquide soit omniscient. Omniscient? Hein, c'est-à-dire qu'il sait tout? Exact, il sait tout. Il a la connaissance absolue. Mais ce n'est pas tout. Quoi encore, Otacon? Snake, Liquide, c'est toi. What the hell?
Les dialogues sont tellement parfaits, je crois que c'est tiré forcément du prochain MGS, c'est pas possible.
C'est exactement ce que je voulais dire, c'est que vous n'avez rien compris à cette chronique, et c'est normal car c'est un extrait du prochain Metal Gear, un extrait authentique. En tout cas, j'espère que notre anonyme aura été satisfait par cette réponse. On va passer par un autre courrier des haters, il est signé MP, et il s'adresse à l'industrie du jeu vidéo en 2014 pour les siècles et les siècles à venir, ce qui après un week-end de canonisation nous paraît franchement bien indiqué.
Bon, très bien. Alors je tombe le masque. Voilà. Je suis tous ces haters velus qui ont dégobillé leur méchanceté et leur mauvaise foi. C'est moi. Oh. Parvenu à ce stade de l'année, les amis, je dois bien avouer que le fiel s'est tari. C'est presque un Alexandrin en plus. Hein. J'ai beau me tourner de tous les côtés, rien. Il ne reste plus aucun motif de contrariété pour le jeu vidéo. Les suites sont des suites. On ne leur demande pas de faire autre chose.
C'est vrai.
Les AAA sont des grosses machines, des blockbusters calibrés. Personne ne s'en plaindra. Les indépendants sont toujours aussi mal peignés, foutraques, enthousiasmants, mais qui dira le contraire, oui. Le 3 arrive le mois prochain. Il y aura des surprises, mais pas trop. Ça va, juste ce qu'il faut. Les jeux casual se suivent, font 3 petits tours et puis s'en vont, avec votre argent d'ailleurs. Mais rien de nouveau là-dedans. Ubisoft? Mais j'aime Ubisoft.
Clash Buzz révélation.
Activision, mais je les aime. Nintendo, mais je l'aime. Electronic Arts, Capcom, mais je les aime. Je les couve du regard comme ces grands adolescents un peu attardés qui ont grandi 1000 fois trop vite et qui ne comprennent rien. Et qui claquent la porte de leur chambre. Non, David Cage, Peter Molineux, dont on parlait tout à l'heure, mais comment voulez-vous que je sois ZF avec ces messieurs, voyons, un peu de sérieux, ce sont des gens adorables. Non, voilà, je tenais juste à mettre les choses au clair avec toi, industrie du jeu vidéo en 2014. Je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux pas parce que c'est fini entre nous. Et pour citer un homme qui a su trouver les mots justes pour rompre avec son grand amour, It's not me, it's a me, Mario. Signé Pimpan.
Oh, c'était le courrier des pipous le plus pipou qu'on ait eu cette saison.
C'est un peu triste parce que Michel Pimpan quitte le jeu vidéo.
Parce que là, c'est un aveu d'échec, là. Il quitte le jeu vidéo game, c'est le cas de le dire. Ah. L'industrie du jeu vidéo a quand même une réponse à adresser à Michel Pimpan.
Oui,
mais est-ce que tu veux bien nous la dire?
Elle est grand contributeur, donc elle a voulu répondre.
Un dernier tour d'adieu.
Elle a dit un brin narquoise. Cher Michel, on vous voit fuir. Oui, on sait que vous avez rangé la console dans la boîte. Les jeux quelque part où vos amis ne pourront plus les voir. Maintenant, vous allez vous tourner vers la culture avec un grand C. À vous les livres, à vous les films. D'ailleurs, n'oubliez pas d'aller voir The Need for Speed au cinéma.
C'est un tweet sponsorisé, c'est scandaleux.
Ah oui, et Ubisoft vient d'ouvrir Ubisoft Motion Picture. 6 films sont prévus. Entre-temps, vous pourrez lire une petite BD Assassin's Creed.
Ah non.
Donc, l'angoisse. Fuyez, fuyez loin, mais la Terre est ronde et le monde est petit. Vous reviendrez vers nous sans même y faire attention.
On peut pas laisser passer ça. Est-ce que vous avez une dernière réponse à la réponse?
Je vous aime.
Ah.
Je vous aime. Enfin, Ubisoft.
On se retrouvera.
Oui, oui, oui.
Et on va s'y retrouver le Game Genie tout de suite.
Game Genie.
Le Game Genie, c'est la dernière chronique de Michel Pimpan pour Inférieur à 3. Et cette fois, elle nous emmènera. Bah, on va partir à l'aventure avec toi, Michel.
Oui, à l'aventure, les amis. Fermez les yeux. Bip. 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 L'aventure. L'aventure. Ami, parvenu au bout du chemin d'Inférieur à 3, voici mon testament. Bip. Bip. Voici ma profession de foi. Bip. Une balise. Bip. Qui dérive dans l'espace infini et impersonnel. Un lieu qui parlera sans doute à mon cher comparse, habitué à Out There. C'est un peu sponsorisé aussi.
C'est l'émission déplacement.
Voilà. Une balise qui dérive. Car oui, par-delà les bits et les bips, par-delà les générations de hardware, par-delà les errances marketing, l'aventure est ce pourquoi nous sommes là, réunis, en ce quatrième dimanche du temps pascal. Non, ça n'a rien à voir. L'aventure est ce pourquoi nous sommes là. Parce que les amis, avec l'aventure, c'est sérieux. On ne décrète pas l'aventure. On nous parle dans les titres de jeu de Dragon Quest, on nous parle de Final Fantasy, on nous vend des Little Big Adventures, mais non. Voyez-vous, l'aventure, c'est comme le désir féminin. C'est un mystère qu'on doit approcher. L'aventure, c'est comme le désir, ça ne se décrète pas, ça ne se commande pas. L'aventure, c'est le chemin qu'on ne prend pas, mais qu'on pourrait prendre. Et puis finalement, on le prend, parce que YOLO, voilà.
YOLO.
YOLO.
YOLO, c'est l'aventure ?
YOLO, ça pourrait être l'aventure, oui, tout à fait.
C'est le meilleur slogan d'aventure, je trouve.
Bah, le permadeath, c'est le YOLO de l'aventure de la sauvegarde.
Ah ah !
L'aventure, voyez-vous, c'est la surprise d'une histoire qui s'offre comme une belle boule de mozza gironde. Et là, je fais une citation en fait, de ma première chronique, voyez-vous,
première mozza,
pour les gens qui suivront. C'est la surprise d'une histoire qui s'offre. C'est une intrigue qui embobine le joueur. C'est un personnage qui aimante, un personnage qui séduit. C'est Red Dead Redemption, ses déclivités, ses plaines, ses arbres et son silence. C'est Mother, la série des Earthbound, Mother 3 plus particulièrement, mais la série, son décor, sa narration à hauteur d'enfant, sa ville en plastoc, ses idées brillantes et fécondes, c'est GTA San Andreas, cette espèce de tourbillon libertaire, et à ce sujet-là, on parle de jeu bac à sable, et pour moi, c'est un élément central, c'est ça, c'est le jeu dans le bac à sable, c'est un espace vierge qu'on cherche à composer, et dans lequel... Une fois qu'on aura redisposé, on inventera une histoire et on inventera ses personnages. L'aventure, c'est Seaman, par exemple, ce jeu, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un jeu sur Dreamcast. L'aventure par expérimentation, par fantasy, où il s'agit d'élever une espèce de graine
un homme-poisson bizarre.
Un homme-poisson, et on l'élève en lui parlant. Voilà. Et ça, c'est un de mes jeux préférés. L'aventure, c'est évidemment The Last of Us, l'aventure haletante.
Quelle aventure ?
L'aventure, c'est Final Fantasy IX, un parfum médiéval au cœur d'un magasin de peluches kawaii. L'aventure, c'est Quackshot, parce qu'on peut être le putain de Donald Duck. C'est l'aventure parce qu'on a un flingue avec qui lance des ventouses. Et ça, c'est foufou. C'est une aventure parce que ça commence par le niveau qu'on veut, qu'on choisit, qu'on a décidé.
C'est swag.
L'aventure, c'est Street Fighter 2, parce que c'est aussi le mode histoire, c'est-à-dire qu'adviendra-t-il de mon champion à la fin ? Est-ce que Ryu va se barrer encore avec son polochon dans le lointain ? Qui est ce Blanca bizarroïde ? Qui est ce M. Bison ? Tous ces personnages-là.
Qui attend Chun-Li le soir ?
Qui attend Chun-Li le soir ? Faut pas le dire trop vite parce que ça fait bizarre.
Attention,
ça.
Attention.
L'aventure, c'est Shadow of the Beast, représente l'Amiga pour toujours. C'est flashback, évidemment. Et cette petite liste, je vais la terminer là. Cette petite liste, pour moi, elle dessine un parcours, un cheminement sur la carte du tendre de l'aventure. J'emploie des vieilles expressions. C'est l'inattendu, c'est ce que promet un décor, ce qui nous attend derrière le virage. C'est un parcours intime et personnel. Voilà.
Complètement proustien, j'ai envie de vous dire.
Oui, bah, tu fais bien de parler de Proust.
Je vous vois les mots de la bouche.
Voilà, c'est parce que pour moi, l'aventure et cette nuance d'aventure, c'est un élément qui est intime et délicat, et c'est proustien. Et je vais essayer de vous montrer pourquoi. Dans les années 90, j'avais pas de PC, et je fantasmais sur les jeux PC que je pouvais voir à la FNAC disposés un peu partout. C'était, disons, le règne de l'analogique à son meilleur, c'est-à-dire que tout était en version physique et un jeu, ça avait jamais été aussi physique parce que ça pesait 3,5 kg. Et moi qui ne savais pas quoi choisir parce que je lisais pas la presse spécialisée, j'avais pas de PC et je savais pas ce qu'était le marché du jeu PC, je me fiais uniquement je naviguais d'un jeu à l'autre, bien sûr en regardant la couverture, mais au poids et en fait et au bruit du manuel qui faisait toc toc dans la boîte que je secouais comme je m'en rends compte maintenant comme un espèce de pervers hein, comme ça dans la FNAC. Je faisais toc toc, enfin je secouais la boîte pour voir le poids du bazar, et quand c'était lourd, une boîte était lourde alors que ça avait l'air d'un jeu avec une aventurière avec des gros nichons et juste une épée géante, je me disais waouh, ça a l'air d'être un jeu qui a du poids.
Il envoie du lourd.
Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est que ce poids-là n'était pas qu'un poids métaphorique. Ça voulait vraiment dire quelque chose pour mon imaginaire. Et là où est le parallèle avec Proust, c'est, je vais vous offrir une petite citation de Marcel pour ce dernier numéro. C'est justement ce processus où l'imagination est à l'œuvre. Voilà. Donc le narrateur est devant la colonne Maurice, une espèce de colonne à la con où il y a toutes les affiches de théâtre, et il sait pas quoi choisir. Et alors voilà ce que dit le narrateur. Tous les matins, je courais jusqu'à la colonne Maurice pour voir les spectacles qu'elle annonçait. Rien n'était plus désintéressé et plus heureux que les rêves offerts à mon imagination, c'est moi qui souligne un peu, par chaque pièce annoncée, et qui était conditionné à chaque fois par les images inséparables des mots qui en composaient le titre et aussi la couleur des affiches encore humides et boursouflées de colle sur lesquelles ils se détachaient. L'autre phrase est vraiment importante, c'est « Rien ne me paraissait plus différent de l'aigrette étincelante et blanche des diamants de la couronne » qui est le titre d'une pièce, que le satin lisse et mystérieux du domino noir.
Autre pièce.
Et mes parents m'ayant dit que quand j'irai pour la première fois au théâtre, j'aurai à choisir entre ces deux pièces, cherchant à approfondir successivement le titre de l'une et le titre de l'autre, puisque c'était tout ce que je connaissais d'elle, pour tâcher de saisir en chacun le plaisir qu'il me promettait et de le comparer à celui que recelait l'autre, j'arrivais à me représenter avec tant de force, d'une part une pièce éblouissante et fière, de l'autre une pièce douce et veloutée, que j'étais aussi incapable de décider laquelle aurait ma préférence, que si pour le dessert on m'avait donné à opter entre du riz à l'impératrice et de la crème au chocolat. Bon, là, clairement, on voit qui est le boss en matière de littérature, parce c'est qu'il y a trois phrases. Ce que je viens de dire. Il y a trois phrases, c'est construit, c'est vraiment de la dentelle, et ça se termine sur une crème au chocolat. Donc tout le monde est content, même au XXIe siècle. Donc, Proust nous disait, et j'essaie d'en parler avec mon manuel qui fait toc-toc, que c'est l'imagination qui doit être au pouvoir, mais c'est notre imagination. Et c'est ça qui est super intéressant avec l'aventure, parce que tous les jeux dont vous pourrez entendre parler et qui vous seront vantés par le marketing, tous les jeux promettent une aventure. Tous les jeux racontent une histoire. Mais rares sont les jeux qui créent un espace en eux, dans leur narration, dans leur décor, dans leur niveau, un espace vierge nécessaire pour que l'aventure avec un grand A advienne. Cet espace, c'est un espace vide, donc, que seule l'imagination du joueur, notre imagination, son aspiration à l'idéal, pourra combler. C'est un nid douillet, voyez-vous, au cœur d'une production industrielle. Voilà. Et donc, en ce sens, pour moi, l'aventure, c'est aussi l'objet, l'obscur objet du désir, pour citer encore un grand philosophe. Et c'est l'insoutenable légèreté du jeu.
Ça, c'est pour citer Kundera.
Kundelich, voilà. C'est une forme de poésie, en fait, à l'intérieur du jeu. C'est-à-dire que la poésie, c'est pareil, ça se décrète pas. C'est un truc hyper léger, hyper difficile à cerner, mais quand ça arrive, waouh.
Et ça se passe essentiellement dans la tête.
Oui, ça se passe dans le cœur.
Plutôt qu'à l'écran.
Alors voilà. Voilà les amis, comme je l'ai dit dans mon courrier des haters, je m'éloigne dans une ellipse toujours plus grande du centre qu'est le jeu vidéo à l'heure actuelle. Mais de loin en loin, vous pourrez sentir mon cœur qui bat comme un bip bip et qui semble murmurer « L'aventure, l'aventure ».
Michel Pimpon, qu'est-ce que tu peux répondre après une telle déclaration fibrotique, pardon, d'ailleurs ?
Alors, plein de choses, c'est un sujet hyper intéressant, hyper vaste.
Très belle chronique.
Alors, en fait, je vais reformuler avec d'autres références ce que vient de dire Michel. C'est-à-dire qu'en fait, il dit en gros, déjà, pour qu'un jeu nous fasse rêver, pour dire les choses grossièrement, il faut qu'il y ait une sorte d'érotisme du jeu, et donc qu'il ne se dévoile pas entièrement. Et en fait, Stanley Kubrick, Stanley Kubrick appelait ça la part obscure de l'imagination. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit ce qui s'est passé avec l'ordinateur de 2001 ou qu'est-ce qui se passe à la fin de 2001. C'est aux gens de s'imaginer ça. Et c'est pour ça que tout le monde parle de 2001 parce que tout le monde a son 2001 dans la tête. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que on s'est aperçu que dans le jeu vidéo, que ce qui marque les joueurs ou ce qui les fait revenir à un jeu ou à une licence, ce sont ce qu'ils appellent les histoires émergentes ou l'aventure émergente, c'est-à-dire la véritable histoire que se crée le joueur dans le jeu. Et c'est pour ça que, on va dire de façon un peu, maintenant on aperçoit maladroite, on a fait ces open world avec le paroxysme étant GTA V où on vous donne un univers bac à sable, on dit il y a une aventure si vous voulez, et puis si vous voulez vous faites ce que vous voulez, voilà. Mais c'est pas tout à fait ça l'histoire. Et j'ai été à une conférence récemment des scénaristes de Ubisoft, et ils sont très sympathiques, et en fait ils disaient il faut différencier histoire et récit. Et le récit, c'est ce qui se passe, c'est ce que vous gardez quand vous éteignez le jeu et que vous allez vous coucher. Vous pensez encore aux jeux vidéo. Et si vous vous imaginez des choses d'aventure, bah, le récit, vous l'avez emporté avec vous. Si vous pensez à autre chose qu'aux jeux vidéo, bah, ça veut dire que le récit, c'était zéro. Mmh. Voilà. Et toi, tout à l'heure, tu m'as dit, moi, le soir, je me couchais et je rêvais de Pokémon. Et tu vois, je voulais être un dresseur de Pokémon.
Je faisais référence à Pokémon Les Origines qui raconte exactement 20 ans après ce qu'il se passait dans le jeu Game Boy et qui raconte exactement ce que j'imaginais dans ma tête quand je jouais à Pokémon, alors que c'était jamais que 6 pixels sur un écran. Mais dans l'imaginaire, il se passait énormément de choses.
Voilà. Et donc, en fait, tu jouais à ce jeu et oui, effectivement, tu imaginais des choses. Et le soir même, avant de te coucher, tu jouais encore dans ta tête et tu disais, mais je veux avoir mon Pokémon, je veux être dresseur. Bon, j'étais pas dans ce trip-là, mais moi, je rêvais des LucasArts et j'ai exploré les univers à ma façon et je les ai vus sous mes angles qui appartiennent qu'à moi.
Guybrush, c'était ton BFF, un peu de choses près.
Ouais, ouais, j'étais Guybrush. Alors, sinon, pour prendre une autre référence qui est Baudelaire, mais je ne suis pas littéraire, donc je suis pas certain d'être bon, on pourrait pousser l'histoire encore plus loin quand on observe le jeune Michel Pimpin secouer les boîtes et se dire, est-ce que le jeu vidéo idéal, en fait, c'est le jeu vidéo auquel on ne joue jamais?
Mais certainement.
C'est-à-dire, et on le voit, on l'imagine, on peut presque le toucher, et en fait on l'emporte chez nous et on le vit dans notre tête et c'est un truc extraordinaire, et puis finalement le jour où tu y joues, bah, c'est juste un jeu vidéo, quoi, tu vois.
Il y a exactement ça, et je pense que c'est quelque chose sur lequel qu'on n'a plus avec le dématérialisé, et surtout avec l'overdose de jeux qu'on a. Et en fait, il est très loin le temps où on achetait un jeu, il y avait la part de fantasme avant d'acheter un jeu, le moment de décider d'un jeu, et encore, et bien sûr, le fameux temps dans la voiture où on est vraiment en train d'imaginer tout l'amusement qu'on va avoir, qui n'était pas forcément au rendez-vous, mais ce plaisir de l'avant d'y jouer était quand même assez inégalable. Mais c'est très passéiste à faire et je me vieillis.
Non,
plus
non, pas du tout, mais je pense que c'est ça, c'est que nous sommes d'un âge analogique, d'une époque analogique, et ce rapport aux choses, presque au sens de Georges Perec, ça fera trois références.
Entendu ma référence de Baudelaire, mais je la garde pour ensuite.
Ce rapport aux choses, c'est un rapport qui est éminemment affectif, quoi. Enfin, c'est un peu un truisme de dire ça, mais voilà. Moi, j'ai un peu de la peine pour les jeunes générations qui ont pas mal de dématérialisé, quoi. Le dématérialisé, c'est très bien parce que
c'est écologique, c'est économique.
Ça met devant la scène des produits qui auraient peut-être pas eu leur chance en linéaire, mais et ça permet aussi de pouvoir acheter un jeu à 23h30 le dimanche en slip sur son canapé, ce qui est génial, notamment le slip. mais à côté de ça, effectivement, il y avait ce rapport-là était un rapport beaucoup plus fort.
Il y a le dématérialisé, il y a aussi la démo.
Mmh, oui.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, Xbox Gold vous donne la démo, même le jeu entier.
Deux tiers des jeux ont une démo.
Voilà, on savait même pas qu'il existait, ben, on télécharge la démo, on le teste.
On te donne des jeux, quelque chose qui n'existait pas non plus.
Voilà, c'est ça. Et ensuite, le dernier point, c'est que tous les aspects qu'on voit d'un jeu, c'est le jeu. C'est-à-dire, on vous donne le trailer du prochain Assassin's Creed, vous le mangez, vous mangez plein d'images de concept art, mais encore pas de concept art, tu vois, vous mangez on veut en plus avoir le gameplay, voilà, ce qu'il va vraiment avoir. Et c'est parce que les journalistes ne veulent pas être biaisés, après ils nous redonnent ça.
Les reproches vont dans les deux sens. Quand un trailer est entièrement cinématique, on dit on n'a pas vu de gameplay, et quand on voit du gameplay, on se dit c'est très très chiant, on préférait voir l'histoire. On n'est jamais content, on est tous des haters.
Mais après, il faut avoir une démarche intellectuelle pour comprendre pourquoi la cinématique c'est important et pourquoi le gameplay c'est important. Et à la rigueur, effectivement, quand on est dans une démarche de séduction, le gameplay ne devrait pas être là.
Même. De moins en moins, d'ailleurs.
À mon sens, en étant un peu réactionnaire, je dirais que le trailer de gameplay et le trailer de cinématique sont des non-sens, en fait. C'est une absurdité. C'est-à-dire que ça tue le désir dont je parlais au départ. C'est-à-dire que si on tue le désir, alors que le produit fini n'est même pas encore disponible à l'achat, on a pété un truc par rapport à l'aventure, par rapport à la pile, comme ils disent, l'appel que peuvent avoir le joueur.
Oui, mais ces images,
l'autre truc, c'est que à notre époque, encore une fois, à l'espèce d'âge analogique dont je parle, on avait des screenshots, et précisément un screenshot, ça parle pas, ça blablate pas, et le screenshot, on met ce qu'on veut dedans. Et il y a parfois peut-être une légende, mais c'est tout. Donc moi, je suis pour un retour au screenshot, ou alors, à la limite, juste un gif animé.
Si. Mais je suis tellement attaché, je ne regarde jamais de trailer, parce que c'est quelque chose qui m'ennuie, parce que je ne regarde pas des vidéos sur YouTube, et je trouve que ça prend du temps, alors qu'effectivement, avec une image, on la voit, elle s'imprime dans son cerveau, et après, ton cerveau en fait ce qu'il en veut.
Exactement.
Et c'est peut-être plus simple et beaucoup plus sain, ça permet de diminuer ses attentes, et c'est peut-être le fait d'avoir des attentes et de s'attendre et une conformité à ses attentes qui n'est jamais là et qui fait qu'on est toujours très déçu. Et effectivement, de avoir trop d'attentes, c'est peut-être moins se laisser, imaginer
et puis,
son
et puis,
jeu.
Alors, en fait, il y a aussi les journalistes de jeux vidéo changent, c'est-à-dire qu'ils ont une audience qui n'est pas facile. Voilà, les gens qui lisent la presse de jeux vidéo sont des chieurs, j'en fais partie, et en fait effectivement, mais le vrai métier, ça devrait être de dire, écoutez, j'étais à l'E3, j'ai vu ce jeu, voilà une image, il est top, franchement il est top, tu vois. Et là, le problème de l'audience jeux vidéo, ils disent, ah ouais, mais le mec, c'est bon, il est pro Nintendo, il a été payé, on sait pas, tu vois. Et en fait, non, bah avant c'était un peu cette relation qu'on avait là, on va revenir à ça, je pense, parce qu'il y a des gens très bien qui se mettent dans le jeu vidéo, il y a des gens très bien actuellement aussi.
Il y a un lien de confiance à établir avec ses lecteurs qui n'est peut-être plus forcément, en tout cas c'est émoussé ces derniers temps.
La fluctuation d'audience, c'est des choses très compliquées, mais en fait, en tout cas, bon, on va attendre, il va y avoir une maturité, ça va bien se faire, il y a des gens bien installés, très compétents qui font ça. Mais pour revenir et finaliser sur le Baudelaire disait que les plus beaux paysages, on les voyait à travers des fenêtres fermées, parce qu'on les imaginait. Et voilà, et effectivement, le jeu vidéo qu'on lance jamais, c'est le jeu vidéo qu'on emportera pour toujours avec soi. Voilà.
On espère en tout cas vous avoir donné envie de repartir à l'aventure avec nous. Et puis, bah, on va passer pour le dernier Final Lap de Inférieur à 3. Final Lap. Dernier Final Lap d'Inférieur à 3, c'est la question de la fin que Michel Pimpant et Fibre Tigre ne connaissent pas, ils vont la découvrir en même temps que vous, la voici. Le week-end dernier, le scénariste Zach Penn et son équipe ont mis fin à 30 ans de légende urbaine, en déterrant, entre autres, des dizaines de cartouches d'E.T. sur Atari 2600 à Alamo Gordo, au Nouveau-Mexique, c'est très précis, pour son documentaire Atari Game Over, coproduit par Xbox Studio. Fallait-il vraiment les sortir de ces tonnes de sable, où elles se trouvaient très bien depuis 30 ans? Et surtout, maintenant qu'on a fait un gros trou, quel jeu va-t-on pouvoir mettre à la place? Quel jeu mérite finalement
d'y être
enterré?
Alors j'ai vu quelqu'un qui a dit « mettez chaque fou à la place ».
Par exemple, attention, c'est le dernier moment, c'est la dernière chance, parce qu'on ne pourra pas enterrer de code PSN, donc c'est maintenant, tant qu'on a encore des boîtes, il faut décider d'un jeu sur lequel on pourra faire un documentaire en 2044 sur Wii Station Z, restons ouverts. Qu'est-ce que vous metteriez dans ce putain de gros trou au Nouveau-Mexique? J'ai dit putain, je suis désolé.
Bah, tu peux utiliser une safe state. Hein.
Ah, faisons pareil, F6. Qu'est-ce que vous metteriez dans ce gros trou au Nouveau-Mexique?
Voilà.
Michel Pimpon, Firotti.
Alors déjà, je note que le Nouveau-Mexique est the place to be, hein, puisqu'entre Breaking Bad et ça, il se passe quand même un certain nombre
de
choses.
C'est la grosse hype, quand même.
D'une part, j'aime les légendes urbaines, parce que précisément, c'est pareil, ça fait travailler l'imaginaire, et c'est un truc qu'on trimballe toujours avec soi.
C'était mythique, en plus, comme légende urbaine,
ouais,
celle-là.
Ouais, ouais,
c'est incroyable le dénouement qu'on ait déjà, un dénouement de cette légende urbaine.
Après, il y a toujours... quand on déterre des choses... il y a toujours un petit côté honteux, quoi. Il y a presque un côté de profanation. Il n'est pas exclu que ce soit construit sur un ancien cimetière indien, c'est ça que je veux dire. Donc méfiez-vous. Et Nolan Bushnell, il est mort depuis, je crois.
Non,
il est toujours pas mort, Nolan. Nolan Bushnell, il est pas mort. Non. Bon, écoute, hein, bah, Nolan, mon poteau, je serais toi, je ferais gaffe, parce que ça sent mauvais.
Ils ont peut-être réveillé une malédiction en sortant ça. Peut-être que des choses
terribles
vont arriver.
Qu'est-ce qu'on mettrait comme
alors
jeu...
moi, je veux dire ce que je mettrais. Je mettrais deux jeux. Je mettrais Resident Evil 6 et Dark Souls 1. Pourquoi ? Parce que c'est des jeux de la même génération. Et quand on les déterrera dans 50 ans, les gens diront « Ah, ben tiens, pourquoi ils ont mis ces jeux-là » Donc, ils y joueront. Et ils diront « Putain, il y a un putain de bon jeu et il y a un jeu pourri. » Et c'est pour montrer qu'on pouvait faire... que l'industrie du jeu vidéo, elle était très très bonne comme très très mauvaise, et voilà, ça donnerait un petit peu un spectre de l'histoire. Mais bon, pour moi, c'était pas une légende urbaine, je le tenais pour acquis. Mais ça fait toujours plaisir.
Ça n'avait jamais été confirmé, en fait. C'est-à-dire que quand on posait la question aux officiels d'Atari, ils disaient oui, non, je sais plus, NSPP.
Ouais, bien sûr, mais c'est
ça. Ils les ont foutus à la décharge, parce que tu vois, c'est pas au milieu, c'est-à-dire il n'y a pas que des cartouches d'Atari, il y a aussi des déchets en général.
Ce qui m'a fait la peine quand j'ai entendu ça, c'est que je me suis dit, et là c'est encore un peu l'aventure, je me suis dit, c'est hyper triste parce que les mecs sont allés au milieu du désert, ils ont creusé un trou, ils ont fait. Voilà, et aujourd'hui ça se construit tellement. Que maintenant on peut retrouver dans le désert, le mec il coule une chape et hop il trouve un trésor, quoi. C'est-à-dire qu'en fait je me suis dit, tiens, les déserts ils sont conquis par les hommes maintenant, et voilà.
Évidemment.
Donc ça m'a fait un peu...
Des vraies questions, c'est qu'on les a vus sortir victorieusement toutes leurs cartouches et puis les mettre dans des sacs où... Enfin, ces cartouches sont promises à retourner d'où elles viennent, parce qu'ils vont certainement pas en faire grand-chose.
Peut-être que les gens vont acheter, moi j'aimerais bien en avoir une chez moi.
Tu voudrais bien une cartouche d'IT chez toi.
Bah oui, surtout si elle est encore un peu le sable du désert.
C'est un morceau du mur de Berlin.
C'est vrai, ça finira certainement dans des musées. Alors toi, qu'est-ce que tu enterrais, Michel?
En tout cas, sa place est dans un musée.
Tu peux dire que je n'enterrerai rien, j'aime tous les jeux.
Non, je vais pas faire ça parce que c'est pas mon avis. En revanche, ouais, je ferais peut-être un espèce de petit pied de nez. J'enterrerais Yu Suzuki.
Ah.
Avec une équipe de développeurs complète dans un bunker souterrain pour qu'ils nous pondent en 2044 le fameux Shenmue 3 que nous attendons.
C'est pas con. On pourrait mettre David Braben, comme ça on aura Elite 4 aussi.
Et voilà, je l'attends, moi. Voilà ce que je mettrais, soit un Shenmue, soit l'équipe de Yu Suzuki.
Bonne idée, effectivement. Peut-être qu'ils auront besoin de calme et qu'ils auront pas trop le choix, finalement. Effectivement,
on pourrait mettre aussi Peter Molineux.
Mais évidemment,
face à lui-même.
Oui.
pendant 50 ans.
Peter Molineux face à lui-même avec une glace sans teint, tu sais, et qui passe soit sans teint soit en miroir, et dirait une fois sur deux, dirait mais c'est génial.
Et on pourrait faire une super télé-réalité, je suis sûr, pour Xbox Studios. Merci d'avoir répondu à ce dernier Final Lap.
C'est
la fin du tout dernier numéro d'Inférieur à 3.
Chaud de larmes, comme disent dans Silmarils. Voilà.
Vous étiez quand même content d'avoir passé cette saison ensemble.
Oui, c'était super. Oui. Merci beaucoup.
Merci.
Où est-ce qu'on vous retrouve? Alors maintenant, là, vous avez le droit au coupon promo. Vous avez le droit de faire toute la promo que vous voulez. Fibre Tigre, qu'est-ce que tu veux nous dire?
On me retrouve dans Out There.
Ouais.
Qui est déjà sorti, mais que dont on fait, enfin, il sort en rue sur PC, etc.
Et qui est vachement bien. Je ne te pompe pas, mais c'est vachement
bien. Merci. On me retrouve sur Le Ruban Bleu, une BD, et on me retrouve dans un autre podcast, qui s'appelle Studio 404.
Tout à fait.
Voilà.
Et puis sur ton blog, toujours aussi.
Voilà, c'est ça. Et puis mon blog, Le Serpent se mord la queue, puisque je vais bientôt faire un article sur tous les inférieurs à 3. Voilà.
Très bien. Michel, où est-ce qu'on te retrouve?
Alors, moi, on me retrouve sur. Comment vous dire? Dans 10 jours, il y a une version augmentée et en poche, donc ça c'est paradoxal, une version augmentée mais poche du bouquin que j'ai fait avec Quentin, Les Bolosses des Belles Lettres,
oui.
Donc avec un inédit qui sort de nulle part, jamais vu ailleurs, et qui vaut son pesant de troll, et des nouveaux textes par rapport au bouquin d'origine. Voilà, ça c'est le bouquin qui sort dans 10 jours à peu près.
Très bien.
Et puis après, je suis un peu partout, je fais le foufou avec mon poteau Agar de Canard PC que je salue, et on fait souvent des petites blagues, des trucs rigolos, des happenings ludiques sur son site, et puis sinon, je suis un peu partout sur le net.
Très bien, on te suit sur Twitter, @Michel.
6% des comptes Twitter appartiennent à Michel Pimpon.
Tout à fait, effectivement, c'est un jeu. Et si vous les trouvez tous, vous avez peut-être un exemplaire de Bolos et Belles Lettres gratos. Qui sait, si vous réussissez à lui envoyer une liste parfaite. On remercie, qu'est-ce qu'on remercie? On va remercier déjà Valentin de nous avoir réalisé ce soir.
Merci Valentin.
On remercie aussi Aspic qui nous a réalisé une partie de cette saison. On remercie DJ Pie qui nous a habillé musicalement.
Merci Pierre.
Qui a sorti un EP.
Merci Didier.
DJ. Voilà. Qui avait sorti un EP récemment, achetez-le, il est plutôt chouette.
Il est très bien.
Beaucoup de caca pour vos oreilles, mais du caca rigolo.
Et de la calzone.
Et de la calzone de qualité, authentique, pétri à la main. Authentique, pétri à la main. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Merci Radio 01 qui nous a diffusé. Quoi d'autre?
On se croirait aux Oscars. N'arrête pas de remercier.
C'est la fin de la saison. C'est
un merci audio. Twitter, c'est merci Ubisoft. Voilà. Antoine, on n'a rien à dire.
On enverra un petit tweet avec un selfie commémoratif.
Selfie audio.
Merci de nous avoir écoutés.
Un truc pour DJ Pie qu'on peut dire, c'est que DJ Pie fait de la musique aussi.
Oui,
c'est vrai. Si vous aimez notre générique.
Et des comptes fake aussi.
Oui, aussi. Donc, si vous aimez, il y aura certainement un lien sur le site de l'émission. Vous pourrez écouter sa musique.
Ouais, elle est plutôt cool. Restez avec nous sur Radio 01.net, toujours plein d'émissions à découvrir. Et à très vite. Salut.
YOLO.
Au revoir.